Vous écoutez On lit pour vous.
Un toit, un droit. Les personnes en situation de handicap, première oubliée de la crise du logement. Un texte paru le 11 mars 2025 dans AFH. La crise du logement et son corollaire, l'itinérance, touche des personnes parmi les plus vulnérables de notre société et parmi celles-ci, on a les PSH. Selon les données de l'Office des personnes handicapées du Québec, près de la moitié des personnes ayant une déficience motrice au Québec sont locataires et 62 % d'entre elles survivent avec moins de 30 000 $ par an. En conséquence, elles vivent dans une extrême vulnérabilité. Leur revenu ne suffit pas toujours pour répondre à leurs besoins les plus essentiels comme se loger, se nourrir et se soigner. Alors, quand les coûts des loyers montent, qu'elles n'ont qu'un revenu minimum, quand il y a une séparation et qu'une des deux personnes ne peut pas se payer un logement, quand elles ont un handicap physique, intellectuel, trouble du spectre de l'autisme ou autre, quand elles sont victimes de violences conjugales, quand elles sont abandonnées à elles-mêmes, seules, quand toute cette constellation de problèmes s'amoncelle, alors commence le calvaire de PSH qui se retrouve sans domicile fixe. Ces personnes deviennent des PSH itinérantes, mais vivant dans une itinérance cachée, celle que le public ne voit pas, celle qui ne dérange pas, mais qui est tout aussi déshumanisante. Dans l'actuel contexte de crise du logement, où il y a un manque de logement et un manque criant de logements adaptés et accessibles, dénicher un logement accessible et abordable est une mission quasi impossible pour les familles qui ont une PSH. Elles deviennent ainsi vulnérables devant les propriétaires de logements et peuvent être contraintes de vivre dans des conditions insalubres, de tolérer que des réparations urgentes ne soient pas effectuées ou encore d'accepter des hausses de loyer disproportionnées. N'ayant pratiquement aucun soutien des instances gouvernementales, provinciales et municipales, ces PSH entrent alors dans la gueule de l'itinérance cachée. Les gens vont alors prendre des logements inadaptés à leurs conditions, au risque d'y être prisonniers, ou alors aller dans un hôtel pour avoir un semblant d'accessibilité en attendant de trouver le logement adéquat. Pour les PSH ayant une déficience physique et qui ont besoin d'adapter leur logement, le temps d'attente pour obtenir la subvention du programme d'adaptation de domicile frise une année et demie. Avec la suspension de celui-ci jusqu'au 31 mars, il est fort probable que ce temps dépasse 2 ans. De plus, pour les personnes qui viennent d'avoir une déficience physique causée par un accident ou une maladie, cette attente crée un effet domino vers les établissements de santé qui ne peuvent pas les libérer et les voir retourner en communauté avec leurs familles et leurs proches. Ces personnes occupent ainsi des lits qui pourraient être occupés par des patients qui en ont besoin. Les PSH vivent de plus en plus en itinérance cachée. Par exemple, certaines femmes PSH qui subissent la violence conjugale sont obligées d'habiter le même logement que leur agresseur, faute de moyens financiers pour se loger, et pire encore, faute de refuge adapté et accessible selon leur handicap. Elles vivent ainsi cachées, ni vues ni connues. Tout semble aller vu de l'extérieur. Ainsi, des femmes restent prisonnières et sont prises au piège de la violence conjugale. Dans le meilleur des cas, elles se retrouvent chez les proches en vivant une très grande précarité. Pour les PSH issus de l'immigration, le risque de se retrouver en situation d'itinérance est encore plus grand. Elles n'ont pas cette connaissance du système gouvernemental et des ressources disponibles. Elles n'ont pas le budget suffisant pour trouver un logement accessible et subissent surtout la discrimination de la part des propriétaires. Les récents changements des mesures relatives à l'immigration causent de l'anxiété chez les personnes handicapées immigrantes. Pourtant, elles n'aspirent qu'à servir leur pays d'accueil, en mettant à profit leurs compétences et savoirs expérientiels acquis dans leur pays d'origine. Les personnes ayant une déficience intellectuelle, DI, et un trouble du spectre de l'autisme, TSA, sont également à grand risque de se retrouver en situation d'itinérance à cause du manque de milieu de vie adapté à leurs besoins et du manque de services. De nombreuses familles connaissent une précarité financière. Les parents ne peuvent pas travailler à temps plein en raison de la nécessité de s'occuper de leurs enfants, scolarisation et centres d'activité à temps partiel. Il n'y a pas toujours des services de garde adaptés ou disponibles. Cette précarité financière affecte leur capacité à se loger. Dans le cadre des entretiens de sélection pour un logement, ces PSH peuvent être perçues comme différentes, ce qui complique davantage leur recherche. Elles dépendent énormément de leurs parents, tant pour les soins que financièrement. Or, leurs parents vieillissent et décèdent. Elles se retrouvent seules. La rue n'est qu'à un pas. Une fois dans la rue, elles sont plus vulnérables que tous face à l'exploitation financière, sexuelle et plus démunies pour trouver les ressources disponibles. Il est temps que le gouvernement de M. Legault s'occupe réellement de l'accès au logement pour les personnes en situation de handicap. Collectif d'organismes pour la défense des droits des personnes en situation de handicap, CODDPSH. C'était Un toit, un droit, les personnes en situation de handicap, premières oubliées de la crise du logement, un texte paru le 11 mars 2025 dans AFH.
Crise de santé mentale dans les communautés LGBTQ+, un organisme tire la sonnette d'alarme. Un texte d'Anne-Sophie Poiré, paru le 11 mars 2025 dans 24heures.ca. La santé mentale des communautés LGBTQ+, est en crise, plaide Interligne. Une vaste étude commandée par l'organisme, dont les résultats ont été publiés récemment, démontre que près de 9 personnes sur 10 issues de la diversité sexuelle et de genre ont vécu au moins un défi de santé mentale dans la dernière année. Ces chiffres confirment ce que nous observons quotidiennement. Un manque criant de ressources adaptées aux personnes LGBTQ+, lance le directeur général d'Interligne, Pascal Vaillancourt. Le sondage pan-canadien réalisé par la firme Léger visait à comparer la santé mentale des personnes LGBTQ+, à celles qui ne font pas partie de la diversité sexuelle et de genre. Les résultats sont sans équivoque, insiste l'organisme. Sur les 2007 personnes interrogées partout au pays, 86% des membres des communautés LGBTQ+, ont vécu au moins un défi de santé mentale dans la dernière année, comparativement à 64% pour les personnes non LGBTQ+. Une mauvaise santé mentale. Cet écart est jugé alarmant par Interligne, qui souligne l'urgence d'un soutien psychologique accru pour ces communautés. L'étude démontre que 28% des personnes LGBTQ+, considèrent leur santé mentale mauvaise ou très mauvaise, contre 14% de celles qui ne sont pas issues de ces communautés. Il est impératif que les décideurs prennent conscience de cette réalité et agissent rapidement pour financer des services de soutien accessibles et durables, affirme M. Vaillancourt. Entre 2023 et 2024, l'organisme a par ailleurs observé une hausse de 21% des appels en santé mentale et de 15% en lien avec des idées suicidaires. Hausse de l'intolérance. Interling demande aux élus de se mobiliser pour mettre en place des mesures concrètes afin de répondre aux besoins spécifiques des communautés LGBTQ+, surtout dans un contexte de hausse de l'intolérance envers la diversité sexuelle et de genre chez les jeunes. La proportion des adolescents qui seraient mal à l'aise d'apprendre qu'un proche est homosexuel a doublé en 7 ans, selon une vaste enquête réalisée par Gris Montréal. Cette évolution des mentalités représente un recul d'à peu près 20 ans, selon l'organisme. Et un peu partout sur le terrain, le discours est le même. On sent un certain ressac au niveau de l'homophobie, mais surtout de la transphobie. Pendant les formations dans les écoles, des jeunes ont ouvertement des propos haineux. Certains demandent même à être libérés de ces ateliers. Et c'est déjà arrivé que l'école accepte pour des raisons religieuses ou parentales, confiait Pascal Vaillancourt d'Interling en février 2024. Le JAG, qui offre des ateliers en milieu scolaire en Montérégie depuis 1997, arrive au même constat. C'est du jamais vu en 27 ans d'existence. C'est le premier recul des droits LGBTQ+ que l'on constate, affirmait le directeur général Dominique Théberge. C'était « Crise de santé mentale dans les communautés LGBTQ+. Un organisme tire la sonnette d'alarme », un texte d'Anne-Sophie Poiré paru le 11 mars 2025 dans 24heures.ca.
Avançons avec eux dans la réponse à leurs besoins. Un texte paru le 12 mars 2025 dans La Pensée. Du 16 au 22 mars se déroule la 37e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle sous le thème de « J'avance quand la société m'inclut ». Dans la vie, nous poursuivons tous le même but, répondre à nos besoins d'humains. Abraham Maslow les a d'ailleurs bien hiérarchisés à l'intérieur de sa désormais célèbre pyramide. Toutefois, les personnes vivant avec une déficience intellectuelle font évidemment face à de plus grands obstacles devant cette quête du bonheur, pourtant identique à celle des autres humains. À la base de la pyramide se trouvent les besoins physiologiques et de sécurité. Si les simples faits de se nourrir, de se loger ou de prendre soin de sa santé et de son hygiène peuvent être difficiles pour les neurotypiques, on comprend facilement ce que ce serait pour les personnes aux capacités différentes sans l'aide de leur communauté. Logiquement, c'est donc encore avec plus d'aide et surtout plus d'inclusion que ces individus grimperont les échelons supplémentaires de la pyramide pour se rendre aux étapes de l'appartenance, de l'estime de soi et de l'accomplissement. Chacun de nous peut travailler à cette meilleure inclusion simplement en éliminant les préjugés inutiles et contre-productifs en société. Ainsi, les individus devant composer avec une déficience intellectuelle seraient encore plus nombreux à être bien plus capables qu'on le pense en général. Capables de travailler, de bénévoler, d'entretenir un logis et d'y vivre dans le plaisir et la santé. Une plus grande autonomie de plusieurs de ces individus est très possible et surtout souhaitable afin qu'eux aussi viennent enrichir leur communauté, ne serait-ce que par leur façon de voir la vie et de goûter au moment présent. C'est avec cette manière de voir les choses que le grand mouvement du parrainage civique a été créé. La mission des différents organismes de parrainage du Québec est essentiellement de favoriser la participation sociale de ses membres ayant un handicap par le biais de jumelages d'amitié avec des citoyens bénévoles. L'organisme dans notre région demande une implication bénévole de 3 heures par mois afin d'idéalement sortir de la maison pour faire des activités plaisantes pour les deux amis jumelés. Au fil du temps, ce sont vraiment des relations d'égal à égal qui s'installent et qui apportent aux filleuls une nouvelle confiance en eux et en leurs capacités. Les derniers étages de la pyramide de Maslow peuvent ainsi se gravir et ou se solidifier, et ce, même pour les parrains et marraines. Au final, on comprend facilement qu'avec le parrainage civique, c'est toute la communauté qui y gagne. Si l'organisme existe et perdure, c'est d'ailleurs grâce au temps de ces précieux bénévoles. Alors, nous désirons ici les remercier chaudement pour leur engagement. Mille merci à tous. C'était « Avançons avec eux dans la réponse à leurs besoins », un texte paru le 12 mars 2025 dans La Pensée.
Des stages d'un jour en entreprise pour les personnes vivant avec un handicap. Un texte de Lia Lévesque de La Presse canadienne paru le 11 mars 2025 dans Le Manique. Duo Emploi, qui permet à des personnes vivant avec un handicap de vivre un stage d'un jour en milieu de travail, est de retour cette année. Les personnes et les entreprises qui sont intéressées à y participer peuvent s'inscrire dès maintenant, et ce, jusqu'au 3 mai, a fait savoir mardi la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain. Chaque participant sera accueilli pour un stage d'un jour dans une entreprise où il sera supervisé par un parrain ou une marraine pour faciliter son intégration. L'expérience lui permet de se familiariser avec le milieu de travail d'une entreprise donnée et permet en même temps à un employeur de mieux connaître les habiletés d'une personne qui vit avec un handicap. Les stages auront lieu du 1er au 7 juin, soit durant la Semaine québécoise des personnes handicapées. L'an dernier, 208 stages d'un jour ont ainsi pu être réalisés dans l'ensemble du Québec. En 2023, c'était 137 stages. Le Conseil du patronat du Québec incite les entreprises à y participer. Toutes les entreprises du Québec, du secteur privé, public ou parapublic, ou toute autre entreprise à but non lucratif, sont invitées à accueillir des stagiaires, afin de leur permettre d'expérimenter le quotidien d'une entreprise et à découvrir certaines tâches dans un milieu de travail qui pourrait les intéresser, a-t-il fait savoir dans un communiqué. Cette expérience de stage exploratoire pour les personnes vivant avec un handicap contribue concrètement à rendre notre société plus inclusive, a noté le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman. C'était des stages d'un jour en entreprise pour les personnes vivant avec un handicap, un texte de Lia Lévesque de La Presse canadienne, paru le 11 mars 2025 dans Le Manique.
Au Mali, élèves voyants et aveugles côte à côte à l'école. Un texte de Daphné Dion-Vien, paru le 12 mars 2025 dans le Journal de Montréal. Au Mali, l'enseignement de l'Institut national des aveugles repose sur le tutorat. Des élèves valides aident les malvoyants. Un système solidaire qui facilite le travail des enseignants formés au handicap visuel. Mais son financement est en péril. À l'heure où la sonnerie marque le début des classes, des duos complices se forment dans la cour de l'Institut national des aveugles du Mali, INAM, à Bamako. Des élèves et des professeurs non-voyants ou malvoyants sont escortés par des étudiants valides. Une école inclusive basée sur le tutorat. Dans cette école malienne ouverte en 1973, l'enseignement repose sur un système de tutorat où des élèves valides aident ceux qui vivent avec un handicap visuel. L'unique école pour malvoyants et non-voyants de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest compte parmi ses anciens élèves les célèbres chanteurs et musiciens Amadou et Mariam, qui se produisent derrière leurs lunettes noires dans le monde entier. Un grand appui. Le tutorat, c'est le fait de mettre les enfants côte à côte, un voyant et un non-voyant. Cela facilite le travail de l'enseignant. Lorsque des activités sont entamées et que des conseils sont donnés, ils font le travail ensemble, explique à l'AFP Chaka Diabaté, directeur et coordinateur de l'INAM. Sur les bancs de l'école, les étudiants sont installés par binôme. Les uns munis d'un stylo et de papier, les autres d'un poinçon pour écrire en braille. Nos amis à côté nous sont d'une grande utilité et d'un grand appui, témoigne Drissa Diabaté, un élève malvoyant âgé d'une vingtaine d'années. Il nous aide à ramasser nos affaires qui tombent. En classe, il nous dicte ce qui est au tableau et nous épelle les mots, poursuit le jeune Malien. La fierté d'être indépendante. Adama, au tableau, lance Fatoumata Dadiara, une professeure de lettres et d'histoire-géographie, elle-même non-voyante et ancienne élève de l'Institut. Quand on a un handicap, surtout un handicap visuel, il y a d'abord la discrimination, la stigmatisation, explique Madame Diarra, qui a pu poursuivre sa scolarité dans cet établissement après avoir perdu la vue. « Ma grande fierté, d'abord, est que je suis indépendante », se félicite l'enseignante. Les enseignants formés au braille et au handicap visuel. Sur les murs de la cour, une fresque rappelle les correspondances entre l'alphabet latin et le braille. Tous les enseignants de l'école suivent une formation à l'écriture en braille et à la prise en charge des enfants handicapés visuels. Devant une trentaine d'adolescents, le professeur de mathématiques, Mamadou Traoré, énumère à voix haute les formules de calcul qu'il inscrit au tableau noir. « Il faut écrire, en même temps que tu dictes. C'est une double tâche pour nous », rappelle le professeur. Pendant la leçon, les doigts de certains étudiants filent sur les pages de livres en braille. Le coût du matériel spécialisé. Grâce à un petit stylet et un cadre placé sur une feuille épaisse, les étudiants malvoyants ou non-voyants poinçonnent les caractères en braille à toute allure. Ce matériel est coûteux pour l'école qui doit le faire venir de l'étranger. Une des premières difficultés, c'est l'acquisition de matériel didactique spécialisé, les tablettes, les poinçons, les feuilles braille pour les calculs, etc. Lorsqu'il y a des tracés, le compas pour aveugles, etc. Ce matériel n'est pas produit ici, il vient de l'extérieur. C'est un peu cher, rappelle le directeur de l'établissement, M. Diabaté. Un financement en péril. L'Agence américaine pour le développement, USAID, aidait au financement d'ONG partenaires de l'école. Peu après sa prise de fonction en janvier, le président américain Donald Trump a ordonné le gel de cette aide au développement en suspendant 92 % des financements de programmes à l'étranger. Si les conséquences pour l'école ne sont pas encore claires, le directeur s'inquiète. La fermeture de l'USAID va sûrement impacter nos partenaires, et nous également, forcément. Les aides étrangères sont cruciales pour l'école dans ce pays pauvre en proie à une crise économique profonde. Le Mali, pays sahélien dirigé par une junte après un double coup d'État en 2020 et 2021, vit depuis 2012 une profonde crise sécuritaire, nourri notamment par les violences de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'EI, ainsi que de groupes criminels communautaires. C'était « Au Mali, élèves voyants et aveugles côte à côte à l'école », un texte de Daphné Dionvien, paru le 12 mars 2025 dans le Journal de Montréal.
Trois gestes pour vivre plus vieux et en meilleure santé. Un texte commandité, paru le 9 mars 2025 dans La Presse. Même si les Canadiens et Canadiennes vivent en moyenne près de 82 ans, près d'une personne sur deux vit avec au moins une maladie chronique. Citation. Beaucoup de problèmes de santé autrefois associés à la cinquantaine, comme les maladies cardiovasculaires, apparaissent maintenant dès la quarantaine. Fin de citation. Observe David Blais, vice-président adjoint chez Manuvie. Selon le centre médical Cleveland Clinic Canada, qui collabore étroitement avec les équipes d'assurance collective de Manuvie, de petits gestes quotidiens contribuent à prévenir ces problèmes de santé. En voici trois qui peuvent vous aider à vivre plus vieux et en meilleure santé. 1. Marcher. Une majorité de spécialistes conviennent que l'activité physique améliore la santé. Or, devez-vous nécessairement prendre un abonnement coûteux dans une salle d'entraînement? Acheter des appareils sophistiqués? Absolument pas. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une paire d'espadrilles. Selon une étude récente, même de petites marches de 5 minutes faites pendant la journée peuvent aider à réduire la pression sanguine, un important facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires et les maladies rénales. Une fois que vous avez créé cette habitude, augmentez graduellement la fréquence, la durée, le rythme et la distance de vos promenades. Citation : Des petits gestes semblent parfois insignifiants, mais lorsqu'ils sont faits avec régularité, ils peuvent avoir une incidence positive à long terme. La marche peut diminuer la douleur et améliorer la mobilité des personnes souffrant de troubles musculo-squelettiques, aider les gens à mieux dormir et avoir des effets bénéfiques sur notre système immunitaire, tous des facteurs qui influent sur la longévité. Fin de citation, Dr. Steve Pomedley, médecin traitant, Cleveland Clinic, Canada. Plusieurs spécialistes recommandent de marcher entre 8 000 et 10 000 pas par jour ou de faire 5 séances de marche rapide de 30 minutes chaque semaine pour maximiser les bénéfices pour la santé. Vous avez seulement le temps d'en faire deux? Allez-y, c'est déjà un pas dans la bonne direction. 2. Manger. Mieux manger est l'une des meilleures façons de diminuer les facteurs de risque pour la santé. Apporter de petites améliorations progressives à vos choix de repas et de collations est souvent plus facile à faire et efficace qu'un changement draconien de régime, une stratégie difficile à maintenir sur une longue période. Ça peut être aussi simple que de manger une portion supplémentaire de légumes chaque jour et d'en faire une habitude. 3. Socialiser. L'isolement et la solitude ne sont pas mauvais que pour la santé mentale. En effet, ils peuvent aussi avoir des répercussions considérables sur la santé physique. Des études les ont associées à des risques accrus d'accidents vasculaires cérébrales, AVC, de maladies du cœur et de décès prématurés. Prendre le temps d'entrer en contact avec les autres représente un investissement bénéfique pour votre santé à long terme. Par exemple, inscrivez-vous à un club, devenez bénévole pour une cause qui vous tient à cœur, allez à un concert ou prenez simplement des nouvelles de vos amis. Les relations sociales sont une composante essentielle du bien-être et elles améliorent l'espérance de vie. Les recherches démontrent que les activités sociales ont une incidence positive sur la santé physique et mentale. Investissez dans votre avenir. Adopter de saines habitudes de santé nécessite un effort soutenu et de la persévérance, mais l'effort en vaut amplement la peine. Citation : Nous savons qu'un mode de vie sain prolonge l'espérance de vie et améliore la santé physique, mentale et financière, souligne David Blais, vice-président adjoint chez Manuvie. Ça commence en prenant soin de soi dès maintenant. Fin de citation. C'était 3 gestes pour vivre plus vieux et en meilleure santé, un texte commandité paru le 9 mars 2025 dans La Presse.